Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire, heureuse de vous retrouver après une série de pré-enregistrements, donc de diffusion d'émissions inédites, mais qui n'étaient pas en direct. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Bertrand de Sainte-Marie. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Bienvenue à ce micro et merci de venir parler à nos auditeurs d'une grande exposition qui se tient au Musée de la Marine. Musée de la Marine dont vous êtes le chef du service de la conservation et vous êtes commissaire de cette exposition dont je donne tout de suite le titre « Quatre siècles de... » Je n'ai plus le titre en tête.
« D'art et de pouvoir ».
Voilà, parfait.
La marine et les peintres.
La marine et les peintres.
Quatre siècles d'art et de pouvoir.
Très bien. Et une exposition qui s'inscrit dans le cadre du 400e anniversaire de la création de la Marine nationale.
Oui, c'est ça.
On va parler de tout ça avec vous. Peut-être d'abord vous présenter, puisque vous êtes au Musée de la Marine depuis un peu plus d'un an, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Et donc on arrive au Musée de la Marine avec une carrière de conservateur ou de conservateur adjoint ou de différents musées. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours ?
Oui, bien sûr. Oui, de conservateur, de collection publique. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années. Alors, j'ai travaillé au château de Versailles, j'ai travaillé dans les Hauts-de-Seine comme conservateur du patrimoine, d'abord au château de Sceaux, puis au musée Albert Kahn en vue de sa réouverture. Puis j'ai travaillé pendant 4 ans concernant ce vaste et magnifique projet du musée du grand siècle qui doit s'ouvrir à Saint-Cloud dans ce grand bâtiment qu'on appelle la caserne Sully. Voilà, au fil de différents projets aussi patrimoniaux, de restauration, de lieux emblématiques, en effet, dans les Hauts-de-Seine. Et puis d'autres missions, mon expérience m'a permis aussi de travailler à la Wallace Collection à Londres, d'aller régulièrement à Venise aussi, enfin voilà, de travailler pour le patrimoine, notre patrimoine national, européen également. Et c'est vrai que c'est une grande joie et un grand privilège de travailler sur ces objets merveilleux, magnifiques, qui portent en eux une histoire, des transmissions, des savoirs, des techniques, toute cette générosité et en même temps ces traces d'histoire qui sont considérables et dont on a la charge très humblement de conserver, de restaurer, d'inventorier, d'étudier. Et ça fait partie de tous les métiers qui sont à l'œuvre dans les musées, dans les différents musées privés comme publics, Musée de France notamment, mais le tissu muséal en France est très vaste et très dense, et c'est d'ailleurs aussi une grande force de la France que d'avoir cet attachement au patrimoine, les monuments historiques, et puis il y a les musées, mais il y a aussi les archives, et puis il y a aussi des missions, tous les métiers autour de l'archéologie, ça sont les grandes disciplines de nos filières patrimoniales, et c'est vrai que ce sont de vraies vocations qui consistent à défendre ce patrimoine et à le transmettre, voilà, et avec toutes sortes d'autres métiers, bien sûr, qui sont connexes à cela, mais sans lesquels ces missions ne pourraient pas être accomplies pleinement. Ça va de la communication, la médiation, évidemment, auprès du public, pour aider les publics, tous les publics, à comprendre tous les enjeux les plus techniques, historiques, mémoriaux, patrimoniaux, autour des collections, qui, quand elles sont nationales, bien sûr, ou territoriales, dans les musées territoriaux, très importantes issues de musées territoriaux, appartiennent à tous, appartiennent à tous les citoyens, appartiennent à nous tous, et vraiment, ça fait partie à la fois de notre mémoire, mais aussi de notre avenir collectif.
Merci pour cette très belle présentation, Bertrand de Sainte-Marie, de votre métier, de la vocation de ceux qui travaillent dans ce monde de la transmission, du passage de flambeaux, ou de la conservation de nos richesses. Deux petits points que vous avez évoqués sur lesquels je voudrais rebondir. Ce musée du grand siècle, dont nous ne sommes pas tellement loin du pont de Saint-Cloud, de l'autopont, et donc les auditeurs de Radio Radio Courtoisie connaissent pour beaucoup lorsqu'ils partent vers l'ouest. Ces travaux qui ont d'ailleurs valu une fermeture de la 13 pendant un petit moment. Et donc là, c'est la collection de Pierre Rosenberg qui va s'installer dedans. En tout cas, les travaux pharaoniques sont quasiment, en tout cas, terminés pour toute la phase. Il y a eu d'ailleurs des fouilles. Moi, je passe très souvent à pied. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des fouilles à une époque. Et donc, c'est sa collection qui va s'installer dans un peu comme au musée de la Marine, dans un but de présentation d'une collection, pas le musée de la Marine, l'hôtel de la Marine.
Oui. Alors, ce n'est pas à moi de répondre, en effet, sur ce projet-là pour lequel je travaille plus à ce jour. Mais c'est vrai que j'ai eu la joie de travailler sur la constitution d'une collection, et l'acquisition d'œuvres pour créer un nouveau parcours. Et ce parcours prévoit effectivement une attention toute particulière à la démarche d'ailleurs du fait de collectionner, mais c'est d'ailleurs finalement un angle de vue auquel tous les musées sont attachés profondément, et les musées travaillent en étroite collaboration avec les collectionneurs. Ça fait partie de toute façon de l'histoire des objets, de l'histoire des œuvres dont l'acquisition a motivé souvent des personnalités passionnées. Et c'est le cas de Pierre Rosenberg, grand collectionneur, grand directeur du Musée du Louvre, président directeur du Musée du Louvre, académicien, et qui a souhaité établir cette donation pour ce projet.
Ouais, en effet. Et alors l'autre question que je voulais vous poser, c'est au sujet de la Wallace Collection. Je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'ai l'impression que l'exposition à Grand Trianon sur
les jardins,
l'escarpolette qui est là-bas de Fragonard a été envoyée en France. Est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Ça bouge pas
Normalement, en effet, il y a des conditions très strictes.
Oui, j'ai l'impression d'avoir vu que l'escarpolette était en...
Concernant... Alors, je n'ai pas encore vu cette exposition.
Oui, moi non plus.
Donc, mais c'est vrai que oui, ce tableau de Fragonard fait partie des grands chefs-d'œuvre de la Wallace Collection, qui recèle un nombre très important d'œuvres de provenance française. Nous le savons, et c'est un régal d'aller là-bas avec en plus une muséographie tout anglo-saxonne, très accessible. Et ça a été vraiment une joie de travailler là-bas. Je me souviens, c'était à l'occasion du réaccrochage de toutes les peintures nordiques, notamment hollandaise, un très très grand fond, très important, où on trouve notamment aussi des marines, justement, c'est notre sujet. Mmh. Et c'est vrai que la question aussi, pour toute exposition, du transport de ces œuvres et de l'obtention de prêts fait vraiment partie du travail de commissaire d'exposition. C'est jamais simple. On n'a jamais l'accrochage absolument rêvé que l'on souhaite parfois, parce que c'est un défi pour chaque commissariat de réunir les œuvres que l'on souhaite avoir. Il y a certaines œuvres qui ne peuvent pas bouger, d'ailleurs. Il y a des œuvres qui, techniquement parlant, ne peuvent pas bouger. Et puis d'autres, ce n'est pas le moment, ou certaines sont en restauration. D'autres sont... présente en effet des caractéristiques qui fait que leur transport à un moment donné ce n'est pas possible, ou elles sont justement à restaurer mais c'est pas encore fait et un transport leur serait néfaste. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que le montage d'une exposition, eh bien il y a la sélection de ces œuvres et ça se fait bien sûr sur le fondement d'un travail scientifique, d'un travail d'enquête, d'un travail évidemment d'érudition. Voilà, pour bien choisir chaque œuvre en fonction du propos, en fonction d'une logique, en fonction d'une méthode, mais aussi en fonction aussi de l'imagination, en fonction d'une créativité et si possible aussi d'une certaine poésie, pour ne pas oublier quand même un condiment également qui peut s'établir, qui peut se... relevé de la littérature, qui relève aussi des arts et lettres, qui relève d'autres disciplines pour enrichir un propos, pour faire en sorte qu'il soit le plus agréable, le plus passionnant possible aussi pour nos contemporains, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est parler à chacun pour commémorer ou pour rappeler ou pour transmettre, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, le meilleur du propos de l'exposition qu'on veut montrer. C'est une démonstration généreuse, c'est une démonstration qui en appelle d'autres d'ailleurs, hein, comme cette exposition, La Marine et les peintres. J'ai eu joie à la faire parce que elle est aussi la perspective de futures autres expositions, tellement le sujet sur 4 siècles est vaste. Et encore, on ne s'est limité, bien sûr, dans cette histoire française qu'à la France. Mais bien sûr, il y a aussi des perspectives qui seraient européennes ou mondiales, car voilà, au-delà des mers, hein, il y a des sujets qui sont même mondiaux, hein, en tout cas, surtout concernant la France, qui a porté quand même, qui a envoyé ses navires sur toutes les mers.
Alors, cette exposition, La Marine et les peintres, 4 siècles d'art et de pouvoir au musée de la Marine, aux places du Trocadéro, musée qui a fait sa mue il y a peu. Thierry Gosseron, son directeur, était venu nous présenter. Musée aussi qui a présenté très récemment une exposition qui était une grande exposition consacrée à Magellan,
oui,
qui a fait beaucoup parler d'elle, qui
oui,
est
oui, un
vraiment
grand succès.
Très grand succès, une très belle exposition. Et donc, le musée de la Marine a souhaité apporter, évidemment, c'était son rôle, hein, sa contribution à cet anniversaire que sont les 400 ans de création de la Marine nationale. Est-ce qu'on peut revenir avec vous, Bertrand de Sainte-Marie, un peu sur cette date de 1626? Donc, le catalogue de l'exposition qui accompagne cette exposition consacre évidemment une partie assez historique, hein, c'est Olivier Chaline qui en fait l'article sur cet événement, mais à quoi ça correspond véritablement en 1626? C'est l'acte officiel de la création d'une marine nationale?
Oui, c'est cela. C'est la caractéristique aussi de cette exposition, encore une fois mémorielle, c'est qu'elle joint vraiment des enjeux historiques et d'histoire de l'art. Voilà. Donc c'est à la fois passionnant et exigeant de mêler les deux, hein, de la façon la moins rébarbative possible, la moins fastidieuse possible, tout en donnant bien cette étoffe, ce tissu, ce maillage entre histoire et art, et qui mêle d'ailleurs aussi toutes sortes d'autres catégories, ou savantes, ou d'études, hein. C'est la sociologie, c'est l'étude des uniformes, c'est la connaissance des sciences de la navigation, hein, c'est le nom des bateaux, l'onomastique même, c'est toutes sortes de sujets, c'est la diplomatie, c'est la géographie. Donc toutes ces disciplines convergent pour mieux comprendre effectivement ce lien entre la marine et les arts, et ça commence en 1626. Alors, il y a quelques années, en effet, plusieurs historiens et aussi les instances qui réfléchissent sur ces questions historiques au sein même, d'ailleurs, de la marine nationale, au sein des forces armées, hein, se sont en effet arrêtés sur cette date de 1626. On le sait en histoire, la profusion de dates, de segments historiques peuvent être considérés parfois comme ou artificiels ou pas complètement absolus. Hein. Ça fait partie du travail des historiens et aussi des historiens de l'art pour l'art lui-même, avec toutes sortes d'évolutions, de changements. On peut pondérer ça et même d'une génération à l'autre, même d'historiens, les attentes, les regards sur l'histoire, c'est ça qui est aussi extraordinaire dans cette discipline en évolution constante. Mais au-delà des relectures historiques, c'est vrai que cette date de 1626, qui bien sûr ne se, comment dire, engage aussi des conséquences de 1627, 1631, etc. Les choses ne sont pas absolument tranchées à une date fixe, mais oui, en octobre 1626, il y a cet édit qui permet à Richelieu, octroyé par Louis XIII, et qui permet à Richelieu, au cardinal de Richelieu, qui fait partie du conseil du roi, qui s'est rapproché du roi à partir de 1624, d'avoir cette charge de grand maître, hein, grand maître, surintendant général, chef de la navigation et du commerce de France. C'est important aussi, hein, puisque déjà, à ce moment-là, le cardinal de Richelieu a bien conscience que d'être grand maître de la navigation, ça implique aussi des enjeux qui sont bien sûr maritimes et commerciaux. Et c'est vrai qu'il y a cette date-là qui vient à maturité de toute une réflexion, hein, mais déjà, Richelieu en 1622, par exemple, a suscité la création aussi d'unités armées à bord des navires. Hein, et puis, il fait supprimer par le roi l'amirauté en 1627. Hein, voilà, donc, ce qui a un sens très important, on y reviendra peut-être. Donc 1626, voilà, c'est une date charnière, c'est là que commence l'exposition. Nous n'avons pas souhaité, avec le comité scientifique d'ailleurs, trop nous appesantir sur tout le contexte aussi antérieur à cela. D'ailleurs, il y a un prochain colloque au musée de la Marine sur justement la Marine avant la Marine. Hein, oui, il y avait une Marine avant, hein, bien sûr. Il y avait une flotte, mais c'est un peu plus compliqué que ça, avec souvent d'ailleurs des navires plutôt commerciaux qui sont réquisitionnés par le pouvoir. Hein, mais bien sûr, il y a une flotte, il y a une amirauté de France depuis le Moyen-Âge, depuis Saint-Louis, hein, qui elle-même est réformée, modifiée à plusieurs reprises. Et au moment où Richelieu, en tout cas, est le principal ministre de Louis XIII, il y a plusieurs amirautés, hein, avec des contours assez particuliers, mais on va dire que ce sont à la fois des grands personnages, des grands féodaux, qui détiennent en effet les rênes de l'amirauté, notamment le duc de Montmorency, le duc de Guise, mais aussi les Rohan en Bretagne. Hein. Et donc Richelieu va tout avoir en main, en fait. Et il va, grâce à Louis XIII, et c'est important de rappeler le rôle du pouvoir central, du pouvoir légitime, et à l'époque du pouvoir sacré du roi, et c'est pour ça qu'on a le grand privilège au musée d'avoir un magnifique portrait de Louis XIII par Philippe de Champaigne, un portrait acquis par la Banque de France, et qui était en dépôt au musée des Beaux-Arts de Grenoble. Un grand merci au musée des Beaux-Arts de Grenoble qui ont eu la bonté de nous accorder ce prêt. Ça nous permet d'avoir tout de suite, en entrant dans l'exposition, ce grand duo légendaire, hein, connu dans les Trois Mousquetaires et dans toutes sortes d'autres déclinaisons de cap et d'épée. Eh bien, Louis XIII et Richelieu, et c'est vrai que c'est un duo assez incroyable. Et on a parfois un peu oublié la figure de Louis XIII, même si l'historiographie récente, hein, l'a remis pleinement à l'honneur, a montré qu'effectivement, là, il est montré en roi de guerre avec son armure, mais que c'était une réalité.
Oui, bien sûr, je vous interromps un tout petit peu, parce que je ne peux pas, d'ailleurs, j'ai vu qu'elle venait de publier un texte inédit sur Richelieu et l'histoire, mais je ne peux pas ne pas citer la grande historienne de Richelieu et de Louis XIII, qui est Françoise-Hilde de Scheimer, et qui, c'est très étonnant, ces deux personnages. On ne peut pas être historien de l'un sans être historien de l'autre, et ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre qu'ils vont mourir à 6 mois d'écart. Oui. C'est quand même fascinant.
Oui, hein, absolument.
Comme vous dites, ce grand duo que constitue ce roi et son principal ministre. Donc, c'est difficile de savoir quel terme lui donner exactement dans ses fonctions, tellement elles sont multiples pour Richelieu. Mais donc je rappelle aux auditeurs que nous parlons avec Bertrand de Sainte-Marie, qui est conservateur en chef du patrimoine et qui est le commissaire de l'exposition qui vient d'ouvrir, hein, il y a quelques jours au Musée de la Marine, place du Trocadéro, La Marine et les peintres, 4 siècles d'art et de pouvoir, avec un très beau catalogue d'exposition. Et nous allons nous promener dans cette exposition avec lui. Peut-être Bertrand de Sainte-Marie, les auditeurs vont trouver que je dis beaucoup d'avant se promener dans l'exposition, mais ce musée de la Marine, place du Trocadéro, qu'il ne faut pas confondre avec l'Hôtel de la Marine, place de la Concorde, est un musée parisien, mais il y a d'autres musées de la Marine dans les grands ports que sont Toulon, Brest, Cherbourg, j'imagine, peut-être Le Havre, je ne sais pas. Où sont les autres musées de la Marine ?
Oui, c'est-à-dire que nous sommes le Musée national de la Marine est un musée en réseau. C'est vraiment une spécificité assez incroyable, très riche et très stimulante aussi par rapport au métier que j'énonçais tout à l'heure. Et nous sommes présents dans les musées des ports, en effet, à Toulon et à Brest. Hein, et on, On est en plein dans notre sujet de 4 siècles d'art et de pouvoir, hein, deux arsenaux sur lesquels d'ailleurs le pouvoir royal au XVIIe siècle fonde beaucoup d'espérance, hein, à Brest et à Toulon, mais également à Rochefort, l'arsenal de Rochefort, hein, qui est vraiment décidé par Louis XIV, les Colbert, après l'échec de Brouage sous Richelieu, hein, avec cette tentative de ce lieu à Brouage, mais qui ne va pas du tout répondre aux attentes techniques de l'époque, mais également la citadelle de Port-Louis, merveilleuse citadelle, incroyable quand vous partez de Lorient par bateau et que vous arrivez vers cette citadelle qui existe d'ailleurs dès Louis XIII, remaniée par Vauban et remaniée aussi un peu plus tard, un site merveilleux, extraordinaire. Donc ces quatre musées des ports, quatre musées nationaux de la marine dans les territoires, si je puis dire, et avec, on peut dire aussi, leur vaisseau amiral au palais de Chaillot. Hein, mais nous avons également un centre de conservation et de restauration et de ressources qui se trouve à Dugny, hein, qui est attenant en fait de la lande de l'aéroport du Bourget, hein, et c'est là que notre bibliothèque, notre documentation, que les chercheurs viennent travailler sur les œuvres, c'est là que se trouvent aussi nos réserves. Donc c'est un autre site auquel on est très attaché. Nous avons d'ailleurs le privilège aussi pour un musée national d'avoir un atelier de restauration qui a été très utile lors de la rénovation du musée il y a plus de 2 ans, hein, pour agir directement, bien sûr, avec des restaurateurs et des restauratrices externes, mais également en interne. Et c'est vraiment très important d'avoir en interne une équipe de restaurateurs, et notamment qui interviennent sur les modèles et les maquettes. C'est une spécificité du Musée national de la Marine, et une spécificité historique qui remonte à Napoléon Ier, et même à la volonté de Louis XV de mettre toute cette collection offerte par Duhamel du Monceau au sein du Louvre. Hein, c'est pour ça que le Musée national de la Marine, dans sa généalogie, a ce lien très fort au Louvre. Hein, le musée naval était un des départements du Louvre au XIXe siècle. Et Louis XV avait voulu cette salle de marine déjà, avec des modèles et maquettes qui montraient déjà le génie de l'ingénierie, de la construction navale française. Et c'est vrai que ça s'est perpétué ensuite au XIXe siècle et qu'il fallait justement eh bien un atelier pour réparer, pour restaurer ces maquettes et modèles, voilà, dont évidemment les éléments sont très fragiles, composites. Hein, donc cette tradition s'est conservée et c'est dans cet esprit vraiment que le Musée national de la Marine a une approche métier très exigeante. Par rapport à cela, par rapport à cet outil, par rapport à ces corpus très précieux, extraordinaires. Et c'est vrai que ce travail en réseau avec nos collègues dans les musées des ports est vraiment stimulant. Nous avons ainsi remanié, réaménagé et restauré beaucoup d'œuvres pour le parcours de Rochefort, hein, ce grand, on l'évoquait tout à l'heure, cette très emblématique arsenal de Rochefort quand même, qui a vu un nombre incalculable de navires traverser les mers qui partaient de Rochefort. Il y a bien sûr cette magnifique corderie, la corderie très connue, la corderie royale de Rochefort, indispensable, bien sûr, pour équiper pleinement les navires. Il fallait une longueur impressionnante, justement, pour réaliser ces cordages. Alors, nous ne sommes pas présents sur le site de la corderie elle-même, mais à l'hôtel de Cheuss, hein, j'invite vraiment tous les auditeurs à aller visiter l'hôtel de Cheuss, qui a été encore une fois remanié avec ses collections qui ont une nouvelle présentation. Et c'est vraiment magnifique de voir et de comprendre comment cet arsenal à Rochefort, à travers l'histoire aussi de ce site, a fait partie d'un des leviers très importants de la marine française. Hein, et la marine française, on parlait de 1626, tout se met en place à ce moment-là. Hein, pour revenir justement à Richelieu, et c'est une aventure, c'est une conscience navale. La France est évidemment très tournée à cette époque-là et l'a toujours évidemment été par rapport au terrestre. Hein, il y a des enjeux terrestres compte tenu de nos frontières et notre positionnement géographique essentiel. Hein, donc un pays, la France, dans son histoire éminemment rurale aussi, très attachée à la terre, dans tous ces corps sociaux, d'ailleurs, très attachés à la terre. La mer, pendant très longtemps, bon, ben, c'est synonyme, c'est pourvoi la pêche, le poisson, c'est jour maigre. Hein, c'est pas la poule au pot hein, d'Henri IV, si on peut dire. Mais cette réalité est tangible. Hein. Et il a fallu progressivement l'évolution des mentalités pour ne plus redouter cette mer, au contraire, mais pour en faire l'allié, justement, d'une action et une action de liberté, cette fameuse liberté sur les mers. Ce n'est pas qu'un jeu de mots ou une bonne pensée convenable et généreuse, c'est vraiment une réalité. Et il est vrai qu'à partir voilà, de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, la France regarde aussi ses voisins. Hein, bien sûr, il y a des enjeux maritimes considérables, puisqu'il y a les Provinces-Unies, les Pays-Bas, qui déjà ont fait de leur thalassocratie un pouvoir considérable. Ils contrôlent les mers, en rivalité avec les Anglais, hein, bien sûr. Et puis, les Espagnols et les Portugais, déjà, ont participé à des explorations fantastiques que l'on sait. Hein, on évoquait Magellan tout à l'heure. Donc, ils ont aussi une avancée et parviennent à obtenir des ressources aussi fondamentales, essentielles, et qui nourrissent leur conquête terrestre. Hein, tout ça s'alimente. Et côté Méditerranée, bien sûr, l'Espagne, hein, beaucoup, la guerre franco-espagnole sur mer va être très importante pendant la guerre de 30 ans, en ce début du XVIIe siècle, mais également les tensions avec, avec l'Empire ottoman et avec les barbaresques et les différents points de pouvoir, justement, qui se situent notamment à Alger et dans d'autres contrées de cette côte. Donc, très vite, en effet, Richelieu a conscience. Et reprend d'ailleurs hein, le souci d'autres grands amiraux. J'ai parlé du duc de Montmorency, qui était un excellent amiral d'ailleurs et qui avait conscience déjà des enjeux navals. Dès la Renaissance, il y a un certain nombre de. Même autour de François Ier, hein, on a déjà conscience en effet que la mer est un enjeu dont il faut se saisir davantage et pas rester sur les côtes dans une optique un peu défensive. Hein. Donc tout ça va justement, les énergies vont se libérer, mais ça va se faire progressivement. C'est vrai qu'il y a un effort considérable qui est fait par Richelieu, mais cet effort va être encore dépassé et vraiment immense avec Louis XIV et Colbert. Colbert qui est chargé d'établir cette grande flotte. Et c'est vrai que les arts, il est étonnant pour notre sujet de voir que les arts en France aussi connaissent une évolution fondamentale. Et il y a évidemment une date au XVIIe siècle qui est fondamentale, qui est très importante par rapport aux arts. C'est la création, la fondation de l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Louis XIII est déjà mort, ainsi que Richelieu. Pourtant, ils ont été des grands mécènes des arts. Et Louis XIII était proche des peintres, sans en mettre un seul trop en exergue, mais il a été proche de plusieurs peintres. Y compris un Georges de la Tour. Là, on le voit, Philippe de Champagne aussi, ce grand portraitiste hein, d'origine flamande, et ses transfuges, ses hybridations des pays nordiques, hein, Provinces-Unies, Flandre, en France, sont fondamentales. C'est pour comprendre aussi eh bien, l'émergence aussi de cette peinture qui représente la mer. De cette peinture de marine. Il y a une longue histoire aussi derrière, ce n'était pas le propos de l'exposition, mais on voit, dès le début de l'exposition, on voit apparaître ces peintres qui vont représenter la mer, et ces peintres qui vont être au service du pouvoir pour montrer les navires, pour montrer la mer. Et là, évidemment, bah, pour l'historien d'art, ce sont des sujets passionnants, parce que il y a différents genres, on parle des genres picturaux au XVIIe siècle, ce sont des constructions historique, mais il faut bien évidemment que l'esprit crée des catégories, crée des repères dans l'art pour s'y retrouver. Et déjà, on codifie les choses dans la représentation, des choses. Il y a des peintures de bataille, mais il y a le paysage aussi. Et la peinture de marine qui montre la mer ben, est une déclinaison, est une extraction, se rattache au paysage. Voilà. Donc, il y a tous ces jeux de mixité, il y a tous ces jeux d'influence d'artistes au nord de l'Europe et aussi en Italie, puisqu'il y a beaucoup de relais entre le nord de l'Europe et l'Italie. Et c'est vrai que la France va s'affirmer peu à peu avec toutes ses influences et un peintre justement comme Claude Vignon, qui est bien représenté dans l'exposition au début, dans, dans ce début, qui montre à la fois, qui magnifie le cardinal de Richelieu en Hercule, hein, mais qui dispose aussi des ancres de marine et des grappins. Hein. Le grappin, c'est vraiment l'outil pour l'abordage. Hein. Donc, on part à l'abordage, là, très vite. Là, c'est montré, mais de façon artistique, esthétique, avec tout un jeu d'allégories, de références, bien sûr, aux travaux d'Hercule, hein, du ministre. Et qui se représente comme tel. Donc Claude Vignon, eh bien, lui qui revient d'Italie, hein, et qui a dans sa formation, hein, tous ces artistes qui, depuis la Renaissance, hein, sont fascinés par Rome, par l'antique, à la fois par la Rome antique, mais la Rome moderne aussi, eh bien, ces artistes-là, et certains en font carrière comme Claude Lorrain, on a la chance d'avoir un magnifique Claude Lorrain du Louvre dans l'exposition, eh bien, tous ces artistes qui se croisent, qui se connaissent, sont pris d'émulation, et il ne faut pas oublier ces représentations de marine. On les a un peu trop oubliées dans l'histoire de l'art, non pas qu'on ne les ait pas mentionnées dans des monographies, mais comme un sujet en tant que tel, qu'il s'agit de voir de façon globale et importante, eh bien, c'est très intéressant de le voir, et c'est vrai, célébrer la marine française, bah, il faut passer par ce registre des peintures de marine, la représentation des navires aussi, les portraits de vaisseaux, parfois matinés, toujours de mythologie et de la grande peinture d'histoire, qui est le sommet à l'époque, hein, dans la représentation, notamment en France et à l'Académie. Voilà, ce sont toutes ces influences qui convergent pour dresser, pour scénographier notre histoire. Et ça, c'est majeur, et c'est merveilleux de se replonger dans cette aventure.
Les émissions de Radio Courtoisie arrivent chez vous. Les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous, partout. Désormais dans vos voitures, à vélo, en transport en commun, elles vous accompagnent partout. Dans vos téléphones, dans vos poches, 24 heures sur 24. Radio Courtoisie avec vous, politique, société, religion, littérature, histoire, culture, 24 heures sur 24. Nos paroles s'envolent sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. La liberté, ça n'a pas de prix et c'est gratuit.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, après cette magnifique annonce des podcasts de Radio Courtoisie, revenons dans notre studio parce que l'originalité tout de même de Radio Courtoisie par rapport à bon nombre de ses entre guillemets concurrents, c'est que nous sommes aussi disponibles sur la bande FM en direct. Et en direct aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand de Sainte-Marie, conservateur en chef du patrimoine, commissaire de cette magnifique exposition qui se tient depuis quelques jours au musée de la Marine, place du Trocadéro. La marine et les peintres, quatre siècles d'art et de pouvoir, dans le cadre du 400e anniversaire de la naissance de la marine nationale, avec un très beau catalogue d'exposition, pour l'instant que je n'ai consulté qu'en PDF, donc je me suis peut-être davantage concentré sur les textes que sur les images, parce que sur un écran plat et des textes passionnants qui évidemment développent ce que Bertrand de Sainte-Marie vient de nous résumer très brillamment. Bertrand de Sainte-Marie, vous auriez pu, au musée de la Marine, raconter l'histoire de 400 ans au travers justement des maquettes, ou au travers des noms, ou au travers des uniformes. Comment vous est venue cette idée, cette envie ou cette nécessité de présenter la marine sous l'angle de ces peintres ?
Oui. Tout simplement parce que, à mon arrivée au musée, Thierry Gosseron, le directeur du Musée national de la marine, et également Marion Vessière, directrice adjointe, et je les remercie encore vraiment, je les remercie beaucoup de la confiance qu'ils m'ont accordée. Nous étions vraiment d'accord sur le fait qu'il convenait aussi redonner un peu d'importance à nos collections de peintures, voilà, qui certes sont aussi mises à l'honneur depuis la rénovation, hein, puisqu'un certain nombre de grands formats et d'importantes peintures ont été restaurées pour la rénovation. Et on pense bien sûr au port de France du grand Joseph Vernet,
oui, voilà,
bien sûr,
qu'on ne présente Vernet, plus. À part Vernet, voilà. Qui saurait citer, d'ailleurs, vous n'avez pas mis un Vernet en première de couverture de votre catalogue d'exposition,
non.
Vous avez bien fait.
Non,
vous
non,
avez
non.
Mis un autre peintre à l'honneur.
Voilà, Théodore Gudin, injustement oublié, apparemment, hein, mais on espère que cette exposition va justement conjurer cela et va permettre tout à chacun, voilà, de goûter et de retrouver ou de découvrir tous ces peintres qui ont représenté la mer et la marine de France à travers les âges. Et c'est le cas notamment de Théodore Gudin, qui est un grand peintre du 19e siècle. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas eu depuis, bien sûr, la rénovation, mais même avant, depuis un certain nombre d'années, de grandes expositions consacrées à la peinture. Et c'est vrai que assumer cette picturalité, comme le font évidemment, cela va sans dire, les grands musées des beaux-arts, à commencer par le plus prestigieux d'entre eux, le musée du Louvre, hein, mais bien sûr, beaucoup de grandes institutions muséales, hein, qui peuvent justement donner des expositions à tonalité, comme on dit, beaux-arts, très beaux-arts. Eh bien, il était question pour le musée de la Marine, qui bénéficie justement d'une richesse de collections, d'une grande variété de collections. Je l'évoquais tout à l'heure, hein, d'objets scientifiques et techniques, ça c'est lié à la navigation, évidemment, mais également de collections ethnographiques, d'art graphique, de sculptures, concernant toutes ces figures de proue, toutes ces figures, justement, même que les sculpteurs ont servi. Autre grand sujet, la sculpture, bien sûr, dans les arsenaux. Mais donc une grande... mais aussi nos échelles une, comme on les appelle, hein, les bateaux eux-mêmes, et des navires et toutes sortes d'embarcations, et les modèles et maquettes, voilà. Mais il était question aussi de remettre la peinture, on oserait dire la grande peinture également, à l'honneur. En plus, je dirais, se joignant à cette opération, le 46e salon de la marine. Et le salon de la marine, c'est le lieu où les travaux et les productions des peintres officiels de la marine se donnent à voir, même si depuis le XXe siècle, depuis les années 80, 70 et 80, ces peintres officiels de la marine sont aussi photographes, plasticiens, sculpteurs, et maintenant donnent aussi dans les arts numériques et dans toutes sortes d'autres formes d'art. On parle bien de peintres, hein, dans cette grande tradition, des peintres des armées d'ailleurs également, et donc remettre de la peinture, de la grande peinture, à travers ces peintures, on peut, voilà, avoir cette redécouvrir le monde. C'est cette fenêtre sur le monde, hein, dès la Renaissance. C'est cela, ce que les arts proposent, et ainsi des grands formats. Et rappeler en effet que ce sujet de la peinture de marine et des représentations qui touchent à la marine également peuvent tout à fait ont pleinement leur place dans le concert, le dialogue scientifique et esthétique des grandes collections sur les grands sujets, que ce soit les grands sujets, qu'on voit se déployer dans tous les grands musées, parisiens d'abord et puis en région également, hein, que ce soit le musée d'Orsay, bien sûr le Louvre, le château de Versailles, mais qu'également au musée national de la marine, eh bien, ces sujets ont été sublimés par les peintres et par les plus grands. Et que la marine elle-même, on va dire dans sa sagesse, son pragmatisme, bien sûr au XIXe siècle aussi, au XXe siècle, est aussi allée chercher à susciter des vocations de peintres de la marine parmi les nouveaux courants. Que ce soit les avant-gardes ou parmi des peintres au parcours très varié. Et qu'il fallait rappeler au public également que Paul Signac, que Marquet, que Mathurin Méheux, que ces grands peintres connus du public ont été des peintres de la marine, c'est-à-dire vraiment reconnus et enregistrés, si je puis dire, comme tels, nommés comme tels, peintres du département de la marine, puis peintres des armées.
Oui, parce qu'il ne suffit pas d'apercevoir la mer dans un tableau pour que vous soyez qualifié de peintre de la marine.
Non.
On a tous évidemment en tête tous les tableaux qui sont accrochés au Havre notamment, qui vont nous montrer des petits personnages sur une plage avec une mer derrière, mais c'est pas pour autant que vous êtes peintre de la marine.
Non, il y a plusieurs évidemment critères qui jouent, il y a des éléments biographiques, il y a le contexte bien sûr, et militaire et politique, le contexte artistique, je l'évoquais tout à l'heure. Non, il y a plusieurs parcours et il est intéressant de voir que pour chaque artiste, quand même, il y a une conjonction d'éléments. Donc on ne peut pas apporter une réponse trop généraliste, ou on pourrait le faire par tranche, par génération parfois d'artistes, même si on pourrait aussi nuancer en disant, et c'est Théodore Gudin qui le dit dans ses écrits, il a beaucoup écrit également Gudin, et il dit bien que pour bien représenter la mer, il faut avoir navigué. Hein, c'est vrai que ça c'est un grand sujet, on peut en parler pendant des heures, parce que le sujet marin justement a été abordé par des peintres qui n'ont pas mis un pied sur un bateau et qui ont transcrit des images dans leur atelier, au service du pouvoir d'ailleurs. C'est aussi le sujet de notre exposition, c'est la grande variété des peintres. Quand on voit leur parcours, hein, certains peintres, tout d'un coup, se dirigent aussi vers le sujet marin parce qu'il devient à la mode et un enjeu du pouvoir. Et à la fois, le pouvoir, en même temps, suscite des foyers artistiques. C'est le cas des arsenaux qui vont devenir, on pense à Toulon, un foyer artistique majeur. On compte des dizaines et des dizaines de peintres, de sculpteurs aussi, mais de peintres, c'est notre sujet, à Toulon. À la fin du XVIIe siècle, c'est notable, et dans ces instances de la marine, la tradition graphique de restitution à la fois technique, mais aussi esthétique, est très importante. Ça fait partie de la formation des officiers très tôt, instituée dès cette époque, et qui s'est prolongée de métiers, de transmission et d'apprentissage de l'exactitude graphique, de représentation, bien sûr, des navires, alors que d'autres peintres, eux, c'est la décoration à l'époque des navires au XVIIe et XVIIIe siècle, une esthétisation du naval, donc où on décore les navires à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Hein. Dans la grande salle du conseil, il y a généralement des belles marines ou des paysages qui sont représentés. Hein. Et c'est le grand peintre, on en montre des peintures, justement, Jean-Baptiste de la Rose et sa dynastie derrière, d'ailleurs, à Toulon, qui incarne vraiment ce métier de peintre entretenu par le roi. Hein, il y a plusieurs titres comme ça qui varient et qui va montrer la richesse de cette production en Provence, dans le sud de la France. Donc, grande variété de parcours, alors qu'au XIXe siècle, on n'a d'abord que deux peintres qui vont être rattachés au ministère de la Marine, inscrits à l'annuaire de la Marine. C'est Théodore Gudin, il est jeune encore à ce moment-là, on est en 1830, et un autre peintre beaucoup plus expérimenté. C'est important que le public aussi redécouvre ce grand peintre. Il s'agit de Louis-Philippe Crépin. On a eu la joie d'acquérir l'année dernière une très belle toile, un très beau tableau pour notre musée national de Brest, avec d'ailleurs l'appui, le mécénat du CIC. Une très belle opération qui nous a permis d'acquérir une vue de l'arsenal de Brest. Nous avions d'autres vues, un autre grand peintre, Jean-François Hue, dont on voit des œuvres dans notre exposition. Mais Crépin, il a été 4 ans marin. Pendant 4 ans, il était marin. Il a été à Brest et il représente une sorte de zoom sur l'arsenal de Brest, alors que ces bâtiments étaient détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, bombardés. Et là, on a une vue incroyable, rapprochée depuis le quai marchand, en plus, donc on voit les activités marchandes, alors qu'en face, c'est l'arsenal militaire. Hein, donc c'est aussi ces compléments, ces regards, ces reflets marine marchande et activités portuaires, et la marine de guerre, avec ce regard du peintre, qui sait bien, qui connaît bien ses métiers. Hein, et on voit justement le magasin général et une scène historique tout au centre. C'est l'embarquement du général Hoche pour l'Irlande, pour cette fameuse expédition d'Irlande qui va d'ailleurs échouer. C'est une scène de 1796, mais c'est un tableau qui est peint en 1798, qui est présenté au salon. Hein, donc il y a aussi cette activité du salon, hein, qui magnifie, qui consacre le travail des peintres. Donc on a une petite scène historique. Voilà, le musée de Brest a été très heureux d'avoir cette œuvre de Louis-Philippe Crépin, qui va avoir une longue carrière et qui, vous voyez, on attend 1830 pour qu'il ait cette forme de reconnaissance, qui est assez informelle d'ailleurs. C'est cette inscription à l'annuaire de la marine. Quand on fait partie de l'annuaire de la marine, on fait partie vraiment des cadres, des personnalités, hein, qui sont rattachées à cette administration. Et bien sûr, c'est pas une obligation, mais qui peut susciter ensuite des commandes et un travail assez rapproché. Mais on voit bien que ces plus éminents peintres de la marine, bien sûr, ils ont navigué, ils ont la double casquette, si on peut dire, de navigateurs, c'est le cas de Morel Facio aussi, grand, il a été directeur du musée naval, hein, donc le musée de l'ancêtre du musée de la marine, et en même temps proche de Louis-Philippe, proche de Napoléon III, hein, autre moment, le Second Empire, grand moment apogée de la marine, avec aussi des progrès et des innovations technologiques importants, et l'art représente aussi ces voyages du prince président Louis-Napoléon, puis Napoléon III. Donc il y a des enjeux diplomatiques, il y a des enjeux bien sûr de pouvoir, d'image du pouvoir, comme il y avait des images de la magnificence sous l'Ancien Régime. Et là on voit bien que la marine fait l'objet de tous les soins des artistes, et que ces artistes de la marine, il y a un enjeu de vraisemblance, il y a un enjeu d'exactitude, de restitution presque documentaire. C'est ce que Vernet, le grand Joseph Vernet, a réuni. Hein. C'est vrai qu'avec Joseph Vernet, il y a un moment, en effet, de grâce, de perfection, si on peut dire, entre, en effet, cette exactitude, un certain classicisme, mais en même temps, une vérité qui est transmise à travers la peinture, même si s'inscrit dans les pas du grand Claude Lorrain, avec justement ce traitement de la lumière, cette puissance de la lumière qui structure toute la toile, et on le voit en couverture de notre catalogue, la Théodore Gudin rend vraiment hommage à la fois à Vernet, même si chez Gudin il y a du romantisme qui apparaît au 19e siècle, mais hommage à Vernet et hommage à Claude Lorrain, on voit bien cette continuité, et chaque génération de peintres apporte sa touche, apporte son innovation, et le 19e siècle et le 20e siècle, la peinture militaire de marine va se développer, et au 20e siècle, on aura justement des grands reporters, et la notion d'embarquement va être très importante, et très importante aujourd'hui pour les peintres de la marine, qui vivent cette complicité, qui vivent cette solidarité, qui vivent cette vie d'équipage à bord des bâtiments. Et ça, c'est vraiment cette grande aventure à travers les mers, la France occupant quand même le deuxième domaine maritime mondial. Hein. Mmh. Donc on est inscrit pleinement dans notre histoire, et ces pages de notre histoire, il faut les revoir en tout cas et les célébrer.
Alors Bertrand de Sainte-Marie, je rappelle que vous êtes commissaire de l'exposition consacrée à la marine, 4 siècles et art et pouvoir au musée de la marine, à place du Trocadéro. Il y a aussi dans votre exposition, vous donnez la place à ceux peut-être qui ont peint juste la mer, déconnectée de sa marine et du pouvoir de la marine. Je pense évidemment à la période impressionniste, avec des Courbet, des Monet qui se sont davantage intéressés à la vague, à l'écume, au vent, aux couleurs, aux nuages, et vous les intégrez dans votre exposition.
Oui, je les intègre parce que on peut entendre que tel tableau, en effet, du courant réaliste, ou en effet, qui va s'approcher, qui s'approche de la vague impressionniste aussi qui apparaît à ce moment-là du 19e siècle. Non, c'est pas du tout hors de propos, en fait, parce que justement, ce qu'on veut montrer, encore, je le disais tout à l'heure, un commissaire d'exposition voudrait toujours montrer davantage, hein, mais il y a déjà 150 œuvres dans cet espace qui, pour cette partie, puisqu'il y a le 46e salon, on l'a tous compris, dans cette partie, 600 mètres carrés, il faut quand même montrer 4 siècles. Et il est vrai que ces différents courants, dans les salons du 19e siècle, hein, dans les années 20, jusque dans les années 40, il y a vraiment une grande variété d'expressions artistiques. Hein. Il y a de la peinture d'histoire, il y a de la peinture rétrospective historiciste, mais il y a aussi toute l'influence anglaise, hein, du paysage anglais, hein, Constable, Bonington et Turner, bien sûr, qui ont une grande aura, hein, et bien sûr, les peintres romantiques qui sont particulièrement sensibles. Gudin comme Isabey, hein, ils sont très proches tous les deux. Isabey, lui, va se tourner davantage encore, pas seulement, mais davantage encore, vers les autres formes de marine, hein, et la marine marchande, et la mer, et la pêche. Et, mais tout ça, quand même, contribue fortement à représenter, bien sûr, la marine en tant que telle. Hein. Donc les peintres de marine qui vont se succéder se nourrissent de ces nouvelles approches picturales, hein, et donc les courants que l'histoire de l'art, bien sûr, à tenter, tente de consolider, de faire émerger, de, eh bien oui, la veine réaliste, mais la veine naturaliste aussi, et puis même le courant, les courants académiques, hein, on sait que le mot académique n'est plus un horrible mot, et plus caricaturé, selon la terminologie qui était longtemps en vigueur, la peinture des peintres pompiers, hein, non, l'histoire de l'art n'a plus cette vision réductrice, et considère vraiment toute la production du 19e siècle avec, avec une focale justement beaucoup plus ouverte. Hein, et bien sûr, il y en a dans cette exposition, il y a un certain nombre de peintres qu'on pourrait considérer comme des peintres académiques également, ou formés par des peintres académiques. Bref, on voit
Bah,
ce
c'était, pardon, je
foisonnement.
vous interromps, mais tout l'intérêt de l'exposition consacrée à David, là au Louvre,
Oui.
qui a justement montré combien l'académisme pouvait parfois être un grand retour au classique et quelque chose qui paraissait à l'époque totalement anachronique, alors que David était pleinement le peintre de son époque.
Exactement. Oui, exactement. Et donc, c'est une réévaluation
C'est ça.
de ces termes-là, comme d'ailleurs au XVIIe siècle, on a compris à nouveau quand même toutes ces dernières années, eh bien que l'académie, la création de l'Académie royale était une manière de libérer les artistes aussi, hein, des contraintes de la maîtrise, des contraintes laborieuses de l'atelier, et d'en faire vraiment des savants aussi, des personnes lettrées. Et de reconnaître pleinement leur génie créatif. Et donc, il était important, Courbet comme Manet, hein, ont bien sûr abordé le sujet marin, le sujet maritime, et comment, hein, et ont eu une portée considérable, quelle que soit notre analyse ou notre étude de tel ou tel. Manet particulièrement, hein, Manet, il a été vraiment très sensible à la marine, il a même représenté. Des batailles navales. Il a ce fameux combat naval. J'aurais rêvé évidemment obtenir ce prêt aussi de Philadelphie, qui reconfigure complètement l'image du combat naval, où là on a une ligne d'horizon très très haute, et où on a un autre traitement qui semble plus anecdotique et en même temps qui se détache de la traditionnelle peinture de bataille navale. Hein. Donc Manet, il a vraiment abordé. Le sujet naval et la peinture que nous présentons d'ailleurs qui concerne qui est une vue du port de Boulogne, mais l'histoire du port de Boulogne et son aménagement évidemment à avoir avec l'histoire de la marine française liée au pouvoir qui et notamment sous le Second Empire justement a joué un rôle fondamental pour réarmer, pour aménager davantage encore les ports. Donc on voit bien que ces sujets sont absolument connexes et qu'il n'y a pas du tout de hors-sujet en la matière. Et quant à Courbet, l'exposition le montre aussi, il n'y a pas que des peintres qui sont dans des postures d'hagiographie de la marine, pas du tout, même si on veut rester vraiment dans la picturalité et ne pas s'étendre dans d'autres polémiques vaines. Mais en effet, Gustave Courbet est un opposant au régime de Napoléon III. Hein. Napoléon III, je le disais tout à l'heure, hein, qui a vraiment très sensible aux innovations technologiques et techniques et qui a vraiment voulu faire de la marine un puissant, justement, levier de souveraineté, même si ça n'a pas servi, hélas, en 1870. Bah, malgré cette opposition de Napoléon III. Entre Napoléon III et Courbet. Pourtant, le régime tente hein, d'aller chercher Courbet, hein, bien sûr, mais il résiste. Et pourtant, voilà, l'influence majeure de Courbet sur plusieurs générations, hein, et dans ce dialogue avec Manet, avec Boudin, bien sûr, va considérablement renouveler la manière de peindre, la manière de restituer la mer, l'atmosphère, la lumière. Et de faire aussi de l'actualité, du présent et de la vie des marins le sujet moderne. Parce que la peinture de bataille, y compris la peinture de bataille navale, et cette exposition veut aussi réinsister sur la bataille navale, mais pas seulement la fête maritime aussi. Là, on est en pleine paix, au contraire. Hein, la marine montre ses couleurs, hein, c'est des grands pavois. Hein, et il y a un corpus assez important dans cette typologie de représentation de la marine. Et j'ai tenté d'en montrer beaucoup aussi, qui montrent ces moments festifs, ces moments de célébration, à tous les moments d'ailleurs de l'histoire de France, à ce moment-là, Et c'est vrai que ces différentes catégories, la bataille navale, vous voyez, vous me posiez la question tout à l'heure, il n'y avait pas eu au Musée national de la marine de grande exposition consacrée à la bataille navale. Donc il était souhaitable aussi de combler en partie, hein, mais pas seulement, hein, d'autres expositions sans doute pourront explorer ce thème avec d'autres œuvres, car le répertoire est riche, justement. Hein, mais il s'agit tout de même d'étudier, d'approfondir justement tous les registres de représentation de ces batailles navales, issues des représentations de batailles. Hein, ça se met en place dès le XVIe siècle, le XVIIe siècle, hein, une vision d'ensemble d'une bataille, alors qu'après, à partir de 1870, et Courbet n'y est pas étranger d'ailleurs, hein, c'est pour ça qu'il y a des influences considérables, la peinture militaire va apparaître et va s'attacher aux soldats, va s'attacher aux marins, et avec une manière de représenter le fait moderne, de représenter l'actualité, de représenter les manœuvres des marins, de s'approcher d'eux dans une tentative de sensibilité. Et la marine de l'époque est très sensible à ça, car il y a des enjeux de recrutement, car il y a des enjeux de rayonnement de la marine déjà dans un contexte politique, géopolitique, stratégique. Et bien sûr, elle est très sensible à une nouvelle manière de représenter la mer, de représenter les marins, de représenter leurs conditions. Et donc, Courbet, lui, c'est le fait présent, c'est le fait réel, tangible qui l'intéresse. Pour lui, c'est ça, la peinture d'histoire. Hein. Bien sûr, ça va influencer des peintres d'histoire ou des peintres militaires, c'est évident, et on le voit chez des peintres comme Couturier, hein, grand peintre militaire et peintre de marine. On voit chez lui, il y a la même rugosité dans la couche picturale, il y a une manière de représenter le marin qui est à l'œuvre, hein, qui sert à la mer, avec de façon en effet très présente, de façon totalement contemporaine, de façon totalement moderne. Et là, c'est la peinture militaire qui se développe.
Cher Bertrand de Sainte-Marie, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Je rappelle merci. Que vous êtes commissaire de l'exposition La Marine et les Peintres, consacrée à ces 400 ans de relations entre l'art, le pouvoir, au travers de la Marine nationale. Exposition donc qui se tient au Musée de la Marine, place du Trocadéro, à l'occasion du 400e anniversaire de la création de la Marine nationale. Vous en êtes donc le commissaire de l'exposition. J'invite nos auditeurs à s'y rendre. Juste une toute petite question, même si nous avons très très peu de temps. Oui. On peut avoir un billet qui permet à la fois de voir l'exposition, le musée, le salon quand
oui,
on...
oui, absolument.
D'accord, très bien.
Oui.
Très bien. Eh bien, chers auditeurs, place du Trocadéro, pas compliqué du tout de vous y rendre. Merci Bertrand de Sainte-Marie.
Merci madame de votre invitation.
Et chers auditeurs de Radio Courtoisie, à mardi prochain. Au revoir.
Vous venez d'entendre les Mardis de la mémoire, dirigés par Anne Collin, diffusés en direct sur Radio Courtoisie, mardi 19 mai 2026, de 10h à 11h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.